Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, bonjour l'Afrique. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 10 juin, en direct de Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Morgane, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, la Cour pénale internationale a confirmé les charges contre l'ancien chef de guerre Bosco Ntaganda, accusé de crimes dans l'est de la République démocratique du Congo.
Et du côté de Kinshasa, le gouvernement annonce l'adoption d'un projet de révision constitutionnelle sur l'organisation des élections.
Trois mouvements du Nord Mali ont réaffirmé à Alger leur volonté d'œuvrer à la consolidation de la paix.
Et au Soudan, combat dans le sud Kordofan, l'armée affirme avoir repoussé un assaut des rebelles hier, tuant une centaine d'insurgés.
L'armée nigériane affirme avoir contrecarré des raids sur plusieurs villages dans le nord-est du pays.
Enfin, Israël élit aujourd'hui son 10e président.
Sans oublier nos pages sport et musique, mais avant, le journal.
La Cour pénale internationale a confirmé les charges contre l'ancien chef de guerre, Bosco Ntaganda, accusé de crimes dans l'est de la République démocratique du Congo. Celui qu'on surnommait Terminator sera donc jugé lors d'un procès. Les explications de Jean-Roger Bion.
Les juges ont confirmé à l'unanimité les charges qui pèsent sur Bosco Ntaganda. Le communiqué de la Cour fait état de 18 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il est également accusé d'avoir lui-même violé et réduit en esclavage sexuel des jeunes filles de moins de 15 ans. La CPI l'a donc renvoyé devant une chambre de première instance pour y être jugé. Surnommé Terminator, car réputé sans pitié, Bosco Ntaganda est accusé d'avoir joué un rôle central dans les atrocités commises dans l'est de la RDC en 2002 et 2003. À l'époque, il était le chef militaire des forces patriotiques pour la libération du Congo, une milice de l'ethnie Hema en Ituri. Dans le nord-est de la RDC, les violences entre les Hema et les Lindou ont fait quelque 60 000 morts depuis 1999.
Violences ethniques dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais parle désormais de 38 personnes tuées ce week-end à Mutarule, dans l'est du pays. Un vol de bétail a donné lieu à des représailles, débouchant sur un véritable carnage, expliquent les autorités citées par l'AFP.
15 personnes ont été brûlées vives dans une église. Les assaillants n'ont pas été identifiés, souligne le gouvernement. La mission de l'ONU en RDC, elle, parle de combats violents opposant des Bafouliru aux Barundi et aux Banyamulenge, des Tutsis installés depuis plusieurs générations au sud Kivu et originaires de l'actuel Burundi.
Et nous restons en RDC. Le gouvernement a annoncé l'adoption d'un projet de révision constitutionnelle sur l'organisation des élections. Ce projet a été entériné à l'occasion d'un Conseil des ministres extraordinaire, au cours duquel ont été approuvés trois autres projets de loi portant eux aussi sur les élections, aussi bien locales que présidentielles, a indiqué un communiqué officiel. Le communiqué gouvernemental n'apporte aucune précision sur le contenu de ces textes.
Le gouvernement justifie son choix par la nécessité, je cite, de corriger les faiblesses qui ont été à la base des dysfonctionnements observés lors des élections législatives et présidentielles de 2011. Rappelons que c'est à la suite de ce scrutin que le président Joseph Kabila a été reconduit pour un mandat de 5 ans, un vote qui avait été rejeté par l'opposition.
Crise malienne, trois mouvements du Nord Mali réunis à Alger ont réaffirmé leur volonté d'œuvrer à la consolidation de la paix en cours. Et c'est ce qu'a annoncé le ministère algérien des Affaires étrangères.
Le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, le Haut Conseil pour l'Unité de l'Azawad et le Mouvement Arabe de l'Azawad ont signé la déclaration d'Alger. Ils ont réaffirmé leur volonté de s'engager dans le dialogue intermalien inclusif, précise le communiqué cité par l'agence APS. Les principaux dirigeants de ces trois mouvements étaient réunis depuis jeudi dans la capitale algérienne pour des consultations exploratoires, après l'accord de cessez-le-feu signé le 23 mai avec Bamako.
Combat au Soudan, dans le sud Kordofan, l'armée affirme avoir repoussé un assaut des rebelles hier, tuant une centaine d'insurgés. C'est ce qu'annonce un porte-parole militaire qui ajoute que 4 soldats ont été tués. Les rebelles de la branche nord du mouvement populaire de libération du Soudan confirment l'assaut sur une base militaire, mais ils démentent le bilan. Ils ne parlent que de 3 morts et 15 blessés dans leur rang.
Au Nigeria, l'armée affirme avoir contrecarré des raids dans plusieurs villages du nord-est du pays. Les autorités comptent plus de 50 assaillants tués ce week-end dans les états de Borno et d'Adamawa, une zone où les islamistes de Boko Haram sont particulièrement actifs. 4 soldats auraient également été blessés, des déclarations qui n'ont pas été confirmées par une source indépendante.
Avec le beau temps, des milliers de migrants ont recommencé le voyage périlleux pour tenter de rejoindre l'Italie. Le point avec Lionel Gaïma.
Les autorités navales italiennes ont intercepté plus de 5000 migrants à bord de 25 bateaux de fortune en Méditerranée. Ces milliers d'hommes, des femmes, d'enfants partent souvent des côtes libyennes et tentent d'atteindre l'île de Lampedusa en Italie. Plusieurs centaines de personnes ont déjà été englouties par l'océan. Ce week-end, la marine américaine a secouru plus de 280 candidats à l'immigration qui se trouvaient sur un navire en train de couler. Rien que cette année, 40 000 migrants, principalement venus de l'Afrique et du Moyen-Orient, ont atteint l'Italie. Ce chiffre a déjà dépassé celui de 2013. La Sicile, qui accueille la plupart de ces migrants, se dit débordée et appelle l'Union européenne à fournir plus de soutien.
Les pourparlers piétinent entre les autorités sud-africaines et les mineurs grévistes. Le nouveau ministre des Mines a quitté la table des négociations censée mettre fin au conflit social dans les mines de platine. Issa Napon.
Ngwako Ramatlodi, le tout nouveau ministre sud-africain des Mines, a jeté l'éponge après 2 semaines de négociations. Son porte-parole, Malodi Mouefé, a déclaré que le ministre se retirait de ces discussions qui vont néanmoins se poursuivre entre les deux parties. Nommé seulement au mois de mai, le nouveau ministre qui espérait régler la crise au plus vite vient donc de subir son premier échec. La lutte continue, martèle le syndicat des miniers. Le leader de l'AMCU, Joseph Matouya, a évoqué une impasse dans les pourparlers. Cette grève dans les mines des 3 principaux producteurs de platine a plongé depuis janvier le bassin minier de l'ouest de Johannesburg dans une crise économique et humanitaire. Les patrons ont jugé trop élevés les 12 500 rands, quelques 880 euros, demandés par les travailleurs contre 5 000 rands actuellement. Patronat et syndicats sont seulement d'accord sur un point, l'arrêt de cette grève où tout le monde est perdant.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, condamne les 2 attentats de dimanche contre l'aéroport de Karachi au Pakistan. Ban Ki-moon se dit profondément préoccupé par la recrudescence de la violence à travers le pays. Les talibans pakistanais ont revendiqué le siège de l'aéroport, un assaut qui a fait au moins 28 morts, dont 10 hommes armés.
Washington et Téhéran ont entamé hier à Genève des pourparlers directs de 2 jours sur le nucléaire iranien. C'est dans 7 semaines qu'arrive à expiration le délai fixé pour la conclusion d'un accord international global. Félix Yepassis Zembrou.
Les 2 délégations sont dirigées respectivement par le secrétaire d'État adjoint William Burns et son homologue iranien Abbas Araghchi. La chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, est représentée par son adjointe Helga Schmidt. Madame Ashton a jusqu'ici présidé au pourparlers entre l'Iran et les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne, qui ont produit l'accord intérimaire de novembre dernier. Ces pourparlers ont atteint une impasse le mois dernier à Vienne, mais doivent reprendre la semaine prochaine. L'objectif est d'arriver d'ici au 30 juillet à un accord permanent assurant la nature pacifique du programme nucléaire iranien en échange de la levée d'autres sanctions prises contre Téhéran.
Israël élit aujourd'hui son 10e président. Le successeur du président Shimon Peres sera désigné à la suite d'un vote à bulletin secret par les 120 députés de la Knesset, le Parlement israélien. Le favori est Reuven Rivlin, ex-président de la Knesset et membre du Likoud, la droite nationaliste. Les 2 candidats qui auront rassemblé le plus de suffrages seront départagés par un 2e tour qui pourrait, comme lors des élections présidentielles passées, réserver des surprises.
Et nous terminons par le Brésil, où les grévistes du métro de São Paulo ont suspendu lundi soir leur mouvement. Ils menacent cependant de reprendre la grève le jour du coup d'envoi du Mondial de football si leurs collègues licenciés ne sont pas réintégrés. Si elle reprend, cette grève pourrait provoquer des embouteillages monstres dans la mégalopole de 20 millions d'habitants jeudi pour le match d'ouverture de la Coupe du monde de football. Un événement planétaire sur lequel nous reviendrons bien sûr dans notre page sport en fin d'émission.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Au micro, Morgane Guiriec. Thabone Mbeki, l'ancien président sud-africain et invité d'honneur de l'Union panafricaine des avocats, a lancé un avertissement à Yaoundé. L'Afrique y perd énormément avec son argent transféré vers l'étranger. Issa Napon.
À l'occasion de son assemblée triennale au Cameroun, l'Union panafricaine des avocats a chiffré à entre 50 et 60 milliards de pertes le coût annuel de la corruption en Afrique, qu'il s'agisse de vols, pots de vin, échanges douteux entre sociétés, activités criminelles, commerce international, réseaux financiers internationaux et autres. Le président de l'organisation, Maître Elia Banda, affirme que les détournements de fonds ne sont plus le fait uniquement de dirigeants véreux. Il ne s'agit pas de gens qui traversent les frontières avec des caisses remplies de sous. C'est fait de plusieurs manières, dans des transactions multinationales, des transferts entre corporations. Femi Falana, un avocat nigérian spécialisé dans les droits humains, accuse ces multinationales de collaborer avec les élites de son pays pour piller les ressources. Le gouvernement nigérian, par pure irresponsabilité, après 54 ans, ne sait toujours pas combien de pétrole est produit quotidiennement au Nigeria. Il s'appuie sur ce que Shell, Mobil et les autres compagnies pétrolières nous disent. Voici ce que nous avons retiré du sous-sol. Nous avons perdu, comme en 2011, jusqu'à 16 milliards de dollars. Les carences juridiques facilitent ces trafics, selon l'avocat Falana, qui ajoute que depuis 2011, on peut même quitter le pays en déclarant l'argent que l'on sort, même s'il s'agit de millions. Dans un rapport conjoint, la Banque africaine de développement et l'ONG américaine Global Financial Integrity ont indiqué qu'entre 1980 et 2009, jusqu'à plus de 1 000 milliards de dollars ont quitté illicitement l'Afrique. L'avocat camerounais Akere Mouna explique que la Banque mondiale aide les pays africains à retrouver la trace de ces fonds. Mais même s'ils sont localisés, affirme Anna Gardner de l'ONG internationale Lawyers for Africa, le processus pour les récupérer est long et ardu, d'où le désir de trouver les moyens de le simplifier. Pour Thabone Mbeki donc, c'est tout l'avenir de l'Afrique qui est en jeu.
La Voix de l'Amérique, au Cameroun, sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Pendant près de deux décennies, l'Afrique du Sud a été l'Eldorado pour les pauvres du continent et les migrants aspirant à une meilleure existence. Maintenant, pour renforcer sa sécurité et éviter les abus, le pays de Nelson Mandela a durci ses lois sur l'immigration. Certains juristes craignent qu'elles ne rendent la vue plus difficile aux étrangers. Des précisions avec Lionel Gaïma.
Les détracteurs de nouveaux règlements ne soulèvent aucune objection à la nouvelle catégorie de visas réservés aux travailleurs hautement qualifiés, mais s'inquiètent surtout des changements impliquant une application plus rigoureuse de lois existantes. Par exemple, ceux qui ne retournent pas chez eux après l'expiration de leur visa sont plus considérés comme des indésirables et sont interdits de séjour dans le pays. Même pour les immigrés en situation légale, il y a des sérieux risques à cause des lenteurs et de l'inefficacité notoire du ministère sud-africain de l'Intérieur, souvent accusé de corruption. Pour son nouveau patron, Malusi Gigaba, les changements sont nécessaires et ne sont pas plus draconiens que dans d'autres pays. Il crée malgré tout la confusion, selon l'avocat Julian Pokroy, un spécialiste de l'immigration à Pretoria. Ce qui s'est passé ici, comme je l'ai dit dès le début, c'est que les familles vont être séparées. Si l'on ne tient pas compte des considérations humanitaires, c'est cruel. Cruel, cruel et irréfléchi. D'autant que selon lui, le droit de vivre avec sa famille est garanti par la Constitution. En 2011, 25% de 100 000 visas de résidents temporaires délivrés sont allés aux ressortissants originaires du Zimbabwe et du Nigeria. Ce qui a amené certains Sud-Africains, comme on l'a vu ailleurs dans le monde, à accuser ces immigrés de voler leur job dans un pays où le chômage affecte plus d'un quart de la population. Cette frustration a parfois dégénéré en émeutes xénophobes et actes de violence contre les immigrés africains ces dernières années.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, la libération du sergent américain Bo Bergdahl en échange de 5 extrémistes talibans détenus à Guantanamo continue de faire des vagues. Cette semaine, les premières audiences relatives à cette affaire auront lieu au Congrès américain. Chérubin Dorsil.
Lors de ces audiences, les législateurs américains se pencheront vraisemblablement sur les rapports selon lesquels Bergdahl aurait abandonné son poste en Afghanistan avant d'être fait prisonnier par les talibans.
You jeopardize other soldiers when you walk away from your post. Period and end of story.
Vous mettez en péril d'autres soldats en abandonnant votre poste. Un point, c'est tout, a déclaré le député républicain Mike Rogers, président de la commission du renseignement à la Chambre basse. Il croit aussi que l'administration Obama envoie, par cet échange, un mauvais signal aux terroristes.
This is a huge regional and geopolitical problem for the United States.
Cela va poser à l'avenir un énorme problème régional et géopolitique pour les États-Unis. Les otages sont désormais monnaie d'échange dans la guerre contre le terrorisme. C'est toujours dangereux pour les diplomates, les travailleurs humanitaires et les soldats qui sont sur le champ de bataille. C'est le mauvais message au mauvais moment et nous allons en payer le prix pendant des années, soutient le député Mike Rogers. Les législateurs des deux partis ont exprimé des préoccupations après la décision de la Maison-Blanche d'exécuter l'échange de prisonniers sans informer le Congrès conformément à la loi. Mais les démocrates disent que le cas Bergdahl ne doit pas devenir une bataille partisane. Harry Reid est le leader de la majorité au Sénat. Les adversaires du président Obama se sont emparés de la libération d'un prisonnier de guerre, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et ils utilisent ce qui devrait être un moment d'unité et de célébration pour notre nation comme une occasion de faire de la politique aérie, dit Harry Reid. À Bruxelles, la semaine dernière, le président Barack Obama a refusé d'offrir une excuse pour la façon dont son administration a géré l'affaire Bergdahl. Aux dernières nouvelles, le sergent Bergdahl prétend qu'il a été battu, torturé et détenu dans une cage au cours de ses 5 années de captivité en Afghanistan. Il reçoit actuellement un traitement médical en Allemagne.
Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Amérique, au micro Morgan Guiriec. Place au sport dans le journal de la Coupe du Monde avec Nicolas Pinault, Bagessicoura et Jules Valentengué.
Bonjour à tous. Tout de suite, la Coupe du Monde et nous avons notre envoyé spécial qui est déjà sur place, Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour Bagessi.
Alors vous êtes arrivé ce lundi à Sao Paulo, quelles sont les dernières nouvelles?
On avait suivi évidemment Bagessi ce week-end, le mélodrame autour de l'équipe camerounaise. Eh bien la FIFA a annoncé que l'équipe de Samuel Eto'o est bien arrivée à Rio de Janeiro, était en train de voyager vers son camp de base dans l'état de Espírito Santo. Également arrivé notable tout à l'heure de l'équipe américaine qui a atterri presque en même temps que moi ici à Sao Paulo. Et puis on peut également noter l'entraînement de l'équipe brésilienne, hein, grosse pression pour la Seleção qui, on le rappelle, débutera ce tournoi mondial. Ce sera évidemment contre la Croatie.
Voilà, et Nicolas, on n'oublie pas que les éléphants sont aussi déjà sur place, hein, depuis ce week-end. Merci Nicolas.
Obrigado, Bagessi.
Oui, parlant des éléphants de Côte d'Ivoire, il faut dire qu'ils sont arrivés ce vendredi au Brésil, plus précisément à Águas Lindoas. Avant cela, ils ont livré 2 matchs amicaux ici aux États-Unis. Ils ont d'abord été battus par la Bosnie, 2-1. Et lors du dernier match, ils ont battu le Salvador par 2-1 également. Sur la préparation des éléphants, on écoute notre technicien du jour, Rigo Gervais. Il est le sélectionneur du CW Sport San Pedro en Côte d'Ivoire.
Bon, je pense que c'est des matchs de préparation. L'entraîneur veut monter en puissance au niveau de la compétition. Je pense que le premier match amical a été plutôt pour rechercher ses 23. Maintenant, en deuxième match amical, il a recherché plutôt, a déjà obtenu des automatismes pour le groupe qu'il a en main. Envie de préparer la première rencontre de la Coupe du Monde. Et on leur souhaite bon vent et tout bonne chance.
Et on a beaucoup dit hein, sur cette équipe de Côte d'Ivoire qui n'a rien remporté depuis plusieurs coupes maintenant. Vous pensez que ça peut être un facteur de motivation pour ces joueurs qui veulent prouver finalement?
Mais c'est un groupe aussi que c'est vrai qu'ils n'ont rien apporté, mais ils ont réussi 3 fois à se qualifier pour une Coupe du Monde. C'est pas donné à tout le groupe. Cette année, ils ont gagné en expérience. Le coach a tout fait pour pouvoir maintenir son noyau dur. Vu cette expérience, ils vont vraiment profiter de cela pour pouvoir faire un bon parcours en Coupe du Monde, en tout cas.
C'était Rigo Gervais, le sélectionneur du CW Sport San Pedro. Durant la Coupe du Monde, notre grand spécialiste Jules Valentengué à Libreville va nous livrer chaque jour son analyse sur le foot. Voici donc pour ce mondial le premier coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué.
We celebrate the best African football. No wahala, fair play.
Bonjour. Selon un confrère de l'époque, en 1990, les Lions indomptables du Cameroun ont failli réaliser le hold-up siècle. Pour ceux qui ont vécu le mondial italien, plus que les performances sportives, c'est surtout la qualité de la prestation qui a fait du Cameroun d'alors la véritable attraction de cette Coupe du Monde terne. Si nous revenons sur ce souvenir, c'est que l'équipe camerounaise qui vient d'atterrir au Brésil présente à l'analyse de son récent match test contre l'Allemagne de nombreuses similitudes que celles des héros de 1990. Comme elle, l'équipe actuelle arrive à la Coupe du Monde par la petite porte, dont elle n'est pas attendue et pourra jouer sans pression. Par ailleurs, la sélection camerounaise semble avoir récupéré les fondamentaux qui la rendaient redoutable. Un collectif irréprochable où se fondent les talents individuels, un esprit conquérant, une concentration permanente, un mental d'acier, du culot, de la lucidité. De même comme en 1990, les Camerounais ont mis en veilleuse le conflit de génération entre les joueurs vedettes de l'équipe pour se mettre au service de leur leader actuel en pré-retraite et soigner sa sortie. Mais rien n'est joué pour autant, car le contexte a évolué. Les équipes africaines, désormais analysées au scanner, ne surprennent plus, alors que le football business pèse de plus en plus sur une compétition au niveau homogène où les matchs se gagnent sur les détails. Alors, croisons les doigts. À demain.
À demain, Jules. C'est tout pour cette première édition consacrée à la Coupe du Monde. Au micro, Bagassi Koura. Merci de nous avoir suivis.
C'est l'heure de la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Bonjour Morgane. La musique africaine a été parmi les plus remarquées durant ces trois dernières années. Certains artistes africains sont l'œuvre d'un grand succès sur le plan international. Ils sont toujours sollicités dans les quatre coins du monde, soit pour montrer leur belle voix, soit pour produire des chansons. Tel est l'exemple de Wizkid que nous écoutons ce matin dans On Top Yo Mata.
Petite précision, hein, Wizkid est un jeune artiste nigérian émanant du label EMI et président du label Starboy.
Oui, Morgan, c'est jeune et très imprégné dans le showbiz. La collaboration internationale avec Wale et d'autres lui ont permis d'effectuer deux prestations scéniques aux côtés du chanteur américain Chris Brown.
Wizkid, On Top Your Matter. Merci Roger.
De rien Morgan. Nos salutations ce matin vont à la famille Soum Moriba à Abidjan.
Voilà, et je vous rappelle que Roger Muntou, vous le retrouvez tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show. Et avant de se quitter, le rappel des titres avec Anne Albertson.
La Cour pénale internationale a confirmé les charges contre l'ancien chef de guerre Bosco Ntaganda, accusé de crimes dans l'est de la République démocratique du Congo. Et du côté de Kinshasa, le gouvernement annonce l'adoption d'un projet de révision constitutionnelle sur l'organisation des élections. Trois mouvements du nord du Mali ont réaffirmé à Alger leur volonté d'œuvrer à la consolidation de la dynamique de paix. Combat au Soudan, dans le sud kordofan, l'armée affirme avoir repoussé un assaut des rebelles hier, tuant une centaine d'insurgés. L'armée nigériane affirme avoir contrecarré des raids sur plusieurs villages du nord-est du pays. Enfin, Israël élit aujourd'hui son 10e président.
Ainsi s'achève Le Monde Aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Anne Albertson à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriac au micro. Je vous souhaite une excellente journée.
Dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.